BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Vos quasi trois heures d'arrosage quotidien de l'ensemble de vos investissements boursiers. On essaie de rendre effectivement vos placements en bourse les plus luxuriants possibles. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez en direct. On vous accompagne jusqu'à 18h. Étienne Braque avec nous depuis la Tour Euronext. Étienne, c'est une... Alors voilà, on change de mois, on a passé le mois d'avril, on entre dans le mois de mai, mais c'est une nouvelle séance pluvieuse à Paris.
La troisième séance dans le rouge pour le CAC 40. Figurez-vous que c'est la première fois en trois semaines que le CAC essuie trois séances de correction avec un indice qui se retrouve largement sous les 8000 points. 7925 points, un CAC 40 qui est sur des plus bas du 16 avril.
Décidément. Alors on va relire la Fed, effectivement, la conférence de presse aussi de Jerome Powell entre les lignes. Gilles Mouex sera avec nous dans quelques minutes, le chef économiste du groupe AXA. On a de nouveaux indicateurs par ailleurs aux États-Unis aujourd'hui qui confirment quand même cette petite dynamique inflationniste. Le coût unitaire salarial qui bondit de 4,7% au premier trimestre, c'est beaucoup plus qu'attendu. Puis la productivité, elle, stagne. On va en parler donc, bien sûr. Le 10 ans américain, bon, à peu près stable après avoir réagi hier à la Fed. 4,6% pour le 10 ans américain. On parlera aussi des grandes thématiques boursières, celles qui peuvent encore apporter de l'essence à la hausse sur les marchés. On verra. En tout cas, sur l'anti-obésité, on sent un coup de frein. Novo Nordisk relève une nouvelle fois ses prévisions. C'est une bonne nouvelle, Novo Nordisk, le fabricant de médicaments anti-obésité. Oui, mais le titre recule de 2%. Et au passage, d'ailleurs, l'écart de performance avec Eli Lilly continue de s'accroître. Décidément, c'est bien aux États-Unis qu'on arrive le mieux à se valoriser, puisqu'Eli Lilly fait le même métier que Novo Nordisk, fabrique des médicaments anti-obésité aussi. Et la valorisation d'Eli Lilly est désormais bien supérieure à celle de Novo Nordisk. Dans l'intelligence artificielle, on voit aussi des petits signes d'essoufflement. On va en parler. Et certaines valeurs qui pâtissaient, qui souffraient de l'irruption de l'IA, profitent du changement d'humeur du marché, avec en plus une belle publication sur Téléperformance. Aujourd'hui, ce titre Téléperformance gagne 8,5%. À suivre aussi avant la clôture, la data room, les perspectives sur le cuivre. On en parlera avec les experts tout à l'heure de Sonia. On est à vos côtés. Bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et puis ce soir, Apple qui va publier sera après la clôture des marchés. On en parlait avec John Plassard dans USA Today. Replay disponible sur notre application BFM Business. N'hésitez pas, vous cliquez dans la page replay et notamment dans USA Today, ce rendez-vous quotidien avec John. Donc la publication d'Apple attendue tout à l'heure. Il nous a dit, John, ce qu'il fallait en attendre. Puis la façon dont le marché a tendance à généralement réagir aux publications d'Apple. Donc replay sur notre application BFM Business. Étienne, vous le disiez, on est encore en baisse sur le CAC 40. On est en train de prendre de mauvaises habitudes là sur les marchés.
En effet, troisième séance dans le rouge pour l'indice parisien qui continue sa petite correction sous les 8000 points, 7923 points, c'est une baisse de 0,77%, 1,5 milliard d'euros négociés dans le CAC 40 qui est en plein doute après la réunion de la Fed avec quand même Jerome Powell qui a évoqué un manque de progrès dans le recul de l'inflation, qui a évoqué également qu'il était moins confiant dans le fait de voir l'inflation diminuer cette année. Pour autant, il ne voit pas de hausse de taux. Alors ça rassurait un petit peu le marché, mais quand vous regardez aujourd'hui les analystes, les investisseurs, il repousse de plus en plus le scénario d'une baisse de taux, au point même que désormais de plus en plus d'investisseurs ne voient pas de baisse de taux du tout cette année. Par rapport à cela, le marché reste quand même robuste, puisqu'on est toujours à moins de 3% des records historiques à Paris. Aux États-Unis, vous avez Wall Street qui est dans le vert, même si quand vous regardez le Dow Jones, il est à l'équilibre. Mais l'indice Nasdaq, de son côté, progresse très légèrement, grâce notamment à Apple qui est attendu au tournant ce soir. Là aussi, aux États-Unis, vous avez des doutes par rapport à l'intelligence artificielle, avec notamment AMD qui a douché les esprits mardi soir avec des résultats en dessous des attentes. Supermicro Computer également qui a fortement baissé avec des ventes sous les attentes. Par rapport à cela, vous avez le secteur des semi-conducteurs qui corrige aujourd'hui en Europe. Le secteur automobile également continue de sous-performer à l'image de Stellantis qui perd 4% après avoir déjà perdu 10% mardi à la publication de son chiffre d'affaires. La valeur redescend sous les 20 euros à 19,96. À l'inverse, ça se passe bien pour ArcelorMittal qui a publié des résultats supérieurs aux attentes. La valeur gagne 2,7% à 24,23 €. Imerys gagne plus de 11% avec là aussi des perspectives qui surprennent les attentes. Un dernier mot sur l'euro-dollar qui décidément a du mal à franchir les 1,07 puisqu'il s'éloigne à nouveau de cette barre symbolique 1,0677 pour l'euro-dollar.
Aurélien Autant avec nous, puis les bureaux de Suisse avec Banque Privée en fil rouge. Rebonjour Aurélien. On est content de vous retrouver, d'autant qu'on a une plus forte hausse du CAC qu'inhabituelle aujourd'hui. Téléperformance, c'est une jolie publication quand même, Téléperformance, le groupe qui avait pâti en bourse de l'irruption de l'intelligence artificielle. On voit que la thématique IA, bon, freine un tout petit peu là en bourse, et Téléperformance aujourd'hui récupère 8,5%. Pour vous, c'est un sursaut provisoire ou vous voyez le début d'un possible trend plus favorable sur cette valeur?
Non, je pense que il y a énormément de vendeurs à découvert sur le dossier, et profitent de cette publication supérieure aux attentes pour se racheter. Quand on regarde dans le détail, alors au global, c'est vrai que la publication est bonne, hein, puisque on a une croissance qui est positive, alors qu'on l'attendait en repli. Mais quand on regarde dans le détail, on voit que cette croissance, elle est tirée par les services spécialisés, donc c'est-à-dire tout ce qui est interprétation, demande de visa, qui affiche une croissance à deux chiffres, alors que l'activité cœur, hein, donc les centres d'appel, est encore en décroissance sur ce trimestre. Ce qui est en revanche, à mon avis, plus positif sur cette publication, et ce qui est crédibilisé également par les discours des comparables, notamment Concentrix, c'est les prévisions pour 2024 qui sont de l'ordre de 2 à 4%. Donc ça va plutôt dans le bon sens, mais moi j'ai tendance à penser que les inquiétudes sur le ralentissement de la croissance organique, sur les effets de l'adoption de l'intelligence artificielle et en particulier son impact déflationniste, ne permettront pas à Téléperformance de retrouver des multiples plus élevés rapidement. Donc je pense que c'est un rebond technique.
Une autre valeur mal aimée des marchés ces derniers temps qui rebondit aujourd'hui, plus 9%, Worldline, publication saluée par le marché et notamment l'amélioration de la dynamique dans les services aux commerçants. C'était vraiment l'un des gros points faibles ces derniers temps de Worldline. Là, les choses semblent s'améliorer, plus 9%. Est-ce que cette hausse vous semble pleinement méritée pour le coup, Aurélien?
Ouais, c'est un peu le même cas de figure que Téléperformance. C'est des dossiers qui ont énormément souffert, qui publient des résultats un peu supérieurs aux attentes, oui. Et donc on a des rachats d'investisseurs à découvert. Là, ce qui est positif sur cette publication, vous l'avez dit, c'est les services aux commerçants qui publient une croissance meilleure que prévu. Les services aux commerçants, c'est 70% de l'activité du groupe. Et surtout, ce qui est positif quand même, à mon sens, c'est que ça crédibilise les objectifs qui avaient été donnés au mois de février, en particulier une croissance organique pour cette année de 3%. Après, je pense quand même que le momentum va rester poussif jusqu'à la fin de l'année. Et étant donné l'historique boursier de la société, je pense que les investisseurs vont attendre d'avoir davantage de recul sur le plan de transformation avant de revenir plus massivement sur le dossier. Donc peut-être attendre le Capital Market Day qui aura lieu au deuxième semestre.
Ouais, vous êtes prudent, hein, sur le retour des mal-aimés. Bon, peut-être un feu de paille. On verra en tout cas plus 9% Worldline aujourd'hui, plus 9% à peu près aussi pour Téléperformance. En revanche, une déception, Novo Nordisk. Alors, ce n'est pas la publication, ce ne sont pas les prévisions qui déçoivent. Enfin, Novo Nordisk relève ses prévisions, mais c'est la réaction des marchés. Le titre perd 2%. Là. Et du coup, l'écart de valorisation avec Eli Lilly, qui fabrique aussi les médicaments anti-obésité, cet écart de valorisation s'accroît encore. Il y a un discount de 30% à peu près désormais sur Novo Nordisk par rapport à son concurrent américain. Pourquoi est-ce que le titre recule alors que Novo Nordisk relève ses prévisions d'après vous?
Je pense que le parcours boursier du titre ces dernières semaines et ces derniers mois justifie quand même qu'il y ait quelques prises de bénéfices, surtout qu'on voit bien qu'en ce moment que tous les thèmes qui ont très bien marché depuis le début de l'année, donc des thèmes intelligence artificielle, obésité, qui ont profité depuis le début de l'année, sont quand même heurtés par la dynamique qu'on observe sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire le fait que beaucoup d'investisseurs incorporent des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. Donc il y a quelques prises de bénéfices sur ces acteurs-là. Après, moi, quand je regarde les chiffres de Novo Nordisk, je les trouve quand même plutôt bons. On a un relèvement des prévisions avec une croissance comprise entre 18 et 26%, hein, donc une dynamique qui se dément pas. La franchise GLP1 est en progression de 65% sur le trimestre. Maintenant, le sujet pour Novo comme pour Eli Lilly, ça va être de monter les capacités de production pour pouvoir répondre à répondre à la demande. Ce qui d'ailleurs, de mon point de vue, est plutôt un élément positif puisque ça donne une certaine visibilité au dossier puisque les ventes sont contraintes par le par la production. Donc moi j'ai tendance à penser que aussi bien sur l'intelligence artificielle que sur ce thème-là, il faut profiter de ces prises de profit pour se positionner à moyen terme sur ces dossiers-là.
Ah, voilà des idées pratiques pour nos auditeurs et téléspectateurs. Étienne Braque est avec nous depuis la Tour Euronext. Alors demain on aura les publications dans le secteur bancaire qu'il faudra pas rater pour bien terminer la semaine. Crédit Agricole et Société Générale. En attendant, c'est ING que vous suivez aujourd'hui, Étienne.
ING qui est la plus forte hausse de l'Eurostoxx 50 avec une publication qui est dans le sillage de BNP qui est solide avec un groupe qui confirme ses objectifs pour cette année et puis alors son patron qui dit que les taux de la BCE soient à 4 ou à 2,5, ça ne changera pas notre scénario. Donc un message assez fort, un horizon qui se dégage pour les banques et les indices européens peuvent vraiment dire merci aux banques. Hein. Quand vous regardez l'Eurostoxx banque, il gagne 20% depuis le début de l'année, quasiment 40% de performance en l'espace d'un an grâce notamment à Santander ou encore à ING qui gagne plus de 40-45% en l'espace de 12 mois. Un groupe qui confirme aujourd'hui un rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros. Alors le trimestre n'est pas record hein, comme pour BNP, mais mine de rien, vous avez eh bien, un bénéfice qui est stable par rapport à l'année dernière à 1,6 milliard d'euros. Donc ça rassure les investisseurs, d'autant plus que eh bien, le mois de mai, c'est un mois propice aux dividendes. Hein. Donc là, vous allez avoir de gros détachements pour ces valeurs bancaires et donc un secteur qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène et parmi les grands secteurs qui ont d'ores et déjà publié leurs résultats trimestriels, c'est l'un des grands secteurs gagnants avec un taux de surprise vraiment positif par rapport aux autres secteurs de la cote.
Et en plus, un peu de concentration à venir, notamment en Espagne, cette fusion attendue BBVA-Sabadell qui, ce nouvel ensemble, donnerait naissance donc à un nouveau géant européen du secteur bancaire avec plus de 1000 milliards d'euros d'actifs, même si bien sûr tout ça va demander encore confirmation, mais on a un rapprochement en vue. En plus, en Espagne, ça porte encore un peu plus ce secteur. On va en parler d'ailleurs dans la suite de BFM Bourse à nouveau. Étienne nous accompagne, la Tour Euronext en direct. Le CAC 40 nous accompagne aussi, mais nous apporte un peu de pluie aujourd'hui. Le CAC 40, il perd 0,7% alors que Wall Street est en légère hausse. On vous interroge aussi sur nos réseaux sociaux à propos de Total Energy, une nouvelle fois, puisque Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est exprimé ce matin sur BFM TV. Il a dit qu'il allait se battre, c'est le terme qu'il a choisi, se battre pour que la cotation principale de Total Energy reste en France. L'autre question, c'est la suivante. En tant qu'actionnaire, préféreriez-vous Total Energy principalement coté, alors toujours à Paris, ou plutôt à Wall Street à l'avenir pour peut-être un peu plus de performance? Cette question, vous pouvez continuer d'y répondre. Nous laissez aussi vos arguments en commentaire. On rebondira dessus dans la prochaine demi-heure avec la famille BFM Bourse.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et les marchés qui continuent aussi de digérer la réserve fédérale américaine. Hier, Gilles Mouek est avec nous, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Effectivement, alors en plus on a de nouveaux chiffres aujourd'hui aux États-Unis qui confirment cette dynamique un petit peu inflationniste quand même. Coût unitaire salarial à plus 4,7% au premier trimestre, bien supérieur aux attentes. La productivité, elle stagne. Et hier, donc Jérôme Powell qui nous a annoncé la poursuite du statu quo, mais quand même un geste sur le bilan puisque la réduction du bilan va ralentir à partir de cet été. Comment interprétez-vous la communication et la stratégie de la Fed annoncée hier?
Sur le bilan, je pense qu'il faut quand même le détacher de la politique monétaire au sens strict du terme. Du point de vue de la Fed, il s'agit surtout de s'assurer que les conditions de liquidité sont bien remplies sur le marché monétaire américain, qui fonctionne de manière assez curieuse hein, par rapport au marché monétaire européen. C'est un marché à deux étapes, hein, puisqu'il y a des grandes institutions qui servent d'intermédiaire entre la Fed et la plupart des petites banques américaines. Et c'est un système qui se grippe assez facilement. Et la Fed, depuis quelque temps, est assez sensible aux risques que font peser sur la liquidité de ce marché monétaire des réductions trop rapides de la quantité en fait d'obligations qui sont reprises qui sont remises sur le marché par la Fed. Donc c'est essentiellement technique, essentiellement une question de stabilité financière. Ça n'a pas grand chose à voir avec l'orientation de la politique monétaire. Le grand message pour moi de Powell hier soir, qui est un message assez clair et tout était dit à mon avis dans les 5 premières minutes de la conférence de presse, c'est comme tout le monde s'y attendait, maintenant au regard des derniers chiffres, il n'est pas possible pour la Fed de baisser ses taux rapidement. En même temps, j'ai l'impression que Powell voulait absolument commencer à tuer dans l'œuf une discussion qui commençait à poindre dans le marché autour de cette idée que peut-être la Fed serait obligée de remonter ses taux. Et ça, c'est une option qui n'a pas évidemment complètement fermé. Ce serait impossible pour une banque centrale de fermer complètement cette option. Il a quand même il s'est focalisé en fait sur deux chemins possibles. Soit l'inflation reste persistante et on reste là où on est, soit, et c'est ce qu'il a présenté comme sa prévision personnelle, l'inflation se remet à ralentir et là, la Fed baissera effectivement ses taux. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un désir de sa part d'éviter une espèce de surréaction du marché qui se mettrait à pricer des scénarios un peu baroques avec des nouvelles hausses de taux.
Et de ce point de vue, la communication a plutôt réussi et obtenu l'effet voulu et désiré sur le marché. On a eu une détente, effectivement, des obligations américaines. Là, on a un 10 ans américain à 4,64. À votre avis, le déclencheur de la première baisse des taux de la Fed, ce déclencheur du côté des indicateurs d'inflation, quand est-ce qu'il va commencer à se manifester ?
Là, on a une Fed qui est vraiment totalement dépendante des données. Hein. Il n'y a vraiment aucune forward guidance de la part de Powell. Il l'a répété à plusieurs reprises hier soir. Ils verront bien et ils vont s'intéresser à ce qu'ils appellent la totalité des données. Alors, la totalité des données, c'est à la fois à l'inflation observée, c'est-à-dire que il est clair pour moi que la Fed, avant de baisser les taux, voudra voir l'inflation sous-jacente effectivement ralentir à nouveau. On avait eu de très belles évolutions dans la seconde moitié de l'année 2023 et les trois derniers mois sont en contradiction avec cela. Donc la Fed veut voir clairement l'inflation sous-jacente ralentir à nouveau. Et puis il l'a mentionné à plusieurs reprises, quelque chose qui pourrait l'amener à baisser les taux, peut-être même assez rapidement, ce serait une dégradation du marché du travail qui se produirait plus rapidement que ce qu'ils ont en tête. Mais voilà, on a une Fed qui est très attentive aux données, qui veut atteindre un niveau de confiance que clairement elle n'a pas, même si l'orientation générale, ce qu'on appelle le biais de la Banque centrale, ça reste un biais de viche, ça reste à organiser autour de l'idée qu'on attend d'avoir les données qui permettront de baisser les taux, mais on veut baisser les taux.
Demain, rapport sur l'emploi, rapport mensuel sur l'emploi, il sera publié à 14h30. Merci Gilles de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Gilles Mouet, qui est chef économiste du groupe AXA, Wall Street en hausse, là, légère hausse des trois indices américains, en revanche en Europe. Donc on met en danger quand même les 7000 sur le CAC 40, notre CAC perd en ce moment 0,7%. Stellantis encore en souffrance. On y consacre d'ailleurs un article sur notre site BFM Bourse. Cette nouvelle baisse après celle très forte d'avant-hier de Stellantis, encore 4% de repli en ce moment. On vous explique pourquoi donc dans cet article. Il est disponible. Et puis les cours du pétrole qui entraînent Total Energy à la baisse, moins 1,7% Total Energy à la hausse. En revanche, Téléperf, on en parlait tout à l'heure. Téléperf gagne 8,8%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Alors on le disait, dans le marché, il y a le retour de quelques mal-aimés aujourd'hui. Téléperformance, oui, qui progresse bien. Worldline, oui, qui progresse bien aussi. Et puis peut-être aussi les biotech et les medtech. Il faut peut-être arrêter d'ignorer, peut-être arrêter de leur tourner le dos dans vos portefeuilles. Marc Lebozec est avec nous, expert de ces valeurs santé, biotech. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bienvenue. On ne cesse de dire depuis des années que nos biotech, nos medtech françaises et européennes déçoivent, notamment par rapport aux biotech et medtech américaines. Vous dites, c'est vrai, mais ça l'est peut-être un peu moins désormais.
Bon, ça, c'est vrai, oui, parce que on avait quelques locomotives qui brillaient en bourse et qui n'ont pas délivré. Mais pour autant, vous avez tout un tas d'histoires qui arrivent et qui sont arrivées récemment et qui sont tout à fait significatives. Et on constate qu'on peut gagner de l'argent dans ce domaine-là. Donc il y a quelques exemples de sociétés non cotées. Il y a une boîte à Nice qui s'appelait Terrachon, qui a été rachetée par Pfizer pour près d'un milliard. Là, très récemment, il y a quelques jours, il y a une boîte française lyonnaise qui a été rachetée pour un milliard de dollars. Une boîte qui s'appelle Amolite. Et donc il y a des histoires de ce type-là. Et puis quand vous regardez,
vous répétez, Amolite, vous en avez vous tous qui nous suivez, jamais entendu parler sans doute, un rachat par une entreprise américaine pour combien ? Un milliard de dollars. Ouais. Oui. Donc il y a de la valeur.
Il y en a quand même un certain nombre des histoires de ce type-là. Donc je pense qu'il faut pas désespérer. C'est très français de regarder le verre à moitié vide. Mais on oublie aussi et on aime bien brûler ce qu'on a idolâtré par le passé. On oublie que sur la période 2012, 2013, 2014 et une partie de 2015, les biotech étaient le secteur qui performait le mieux, tous secteurs industriels confondus. Et c'est vrai que à partir de 2015-2016, ça a commencé à être plus compliqué. Mais c'est pas complètement désespéré, me semble-t-il.
Où le bas blesse-t-il encore, malgré tout ? Pour nos biotech, alors du coup, elles sont pas chères, elles valent pas, et donc, enfin, elles valent quand même quelque chose, mais peut-être pas beaucoup, et du coup, les Américains les dévorent, c'est peut-être dommage d'ailleurs pour notre souveraineté. Mais voilà, où le bas blesse-t-il encore pour nos biotech ?
Ouais, c'est une conviction très personnelle. Je pense que le bas blesse sur, essentiellement sur le financement. C'est-à-dire qu'on a très peu d'acteurs du financement, très peu de nouveaux acteurs du financement. Moi, j'ai monté deux fonds au cours des 10 dernières années. C'est compliqué de monter des fonds, c'est extraordinairement compliqué. Plus difficile que de financer une biotech, pour vous dire à quel point c'est compliqué. Donc c'est, je pense que c'est là que le bas blesse. Et le bas blesse parce que on a finalement beaucoup axé l'investissement sur la science, ce qui est très noble. Mais lorsqu'on parle d'investissement, on entend tout de suite après retour sur investissement. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur pour la prochaine décennie, c'est s'appuyer sur des retours sur investissement permettent aux investisseurs particuliers, aux institutionnels, de venir s'intéresser à nouveau à ce secteur qui a un potentiel de croissance infini, puisque ça repose sur la connaissance du vivant.
Oui, alors on a quand même ce retour en bourse des grands laboratoires qu'on disait fichu face aux biotech. Absolument. Il y a quelques années encore. Puis là, maintenant, à nouveau, la performance se concentre dans les grands laboratoires. Est-ce que ça signifie que désormais, pour les biotech et les medtech, il y a un petit peu moins de place malgré tout ?
Non, pas du tout, parce que l'innovation reste le fait pour l'essentiel de petites entreprises. C'est toujours le même discours, c'est dire que l'innovation vient de groupes de petits groupes de personnes pluridisciplinaires, des gens qui font de la stat, des gens qui font de la pharmacologie, des gens qui font de la bioanalyse, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, des gens complètement complémentaires et qui vont créer quelque chose motivé par la gloire, par l'argent, voilà. Et ça reste tout à fait vrai. C'est-à-dire que moi j'estime que c'est 90%, au moins 90% de l'innovation qui vient de petites structures, de petites organisations. Donc les big pharma, elles, se sont recyclées fondamentalement. On a vu leur investissement en recherche amont réduire et on déplaçait les sommes vers les fins d'études cliniques qui coûtent très très cher. Là, j'ai monté une start-up avec des amis. On regarde la mise au point d'un médicament contre une maladie ophtalmique, contre le glaucome. On estime que pour enregistrer un médicament dans le glaucome, il faut faire une étude finale de 5 ans. Donc faire une étude de 5 ans, ça coûte très 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 cher, 5 ans sur des centaines voire des milliers de patients. Donc les labos pharma maintenant se sont spécialisés sur ces essais cliniques finaux et sur la commercialisation, ce qui est tout à fait logique et vertueux et qui correspond à une forme de complémentarité avec les petites sociétés.
Un exemple, parce qu'on a une émission d'investisseurs et d'investissement BFM Bourse, un exemple de société dans cet univers, les biotech, les medtech, qui à vos yeux présentent un beau potentiel et un rapport justement risque-performance plutôt positif.
Moi, je voudrais mettre en avant une société lyonnaise qui s'appelle Genoway, qui fait des modèles animaux pour des études précliniques, donc avant qu'on ne les teste sur des êtres humains. Ça pose un vrai problème pour les activistes, mais faut toujours se souvenir que si on n'avait pas ces modèles animaux, on devrait passer par des tests sur l'homme immédiatement, ce qui fait un petit peu peur. C'est une entreprise qui a réussi à doubler son chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années, et sans surprise, on peut le dire, puisque le marché a toujours raison, le cours de bourse a doublé sur cette même période. Et la société recèle encore beaucoup de potentiel de croissance, d'une part, de ses ventes, mais aussi, d'autre part, de sa rentabilité. Parce que, historiquement, elle faisait des modèles animaux pour le compte de tiers. Donc, un labo académique ou une biotech venait les voir en leur disant « J'aimerais muter tel gène. Est-ce que vous pouvez me faire une lignée, une famille de souris qui ont tel gène muté ?» Et puis, désormais, l'essentiel de leur chiffre d'affaires vient de modèles sur catalogue. Donc, ils ont eux-mêmes créé plusieurs dizaines de modèles animaux, de modèles souris pour l'essentiel, qu'ils vendent à la pièce avec une rentabilité très supérieure, presque trois fois supérieure.
Genoway, donc, qui est cotée en bourse.
Oui.
Une société lyonnaise cotée à Paris. Pas de jaloux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Marc, de nous avoir accompagné. Marc Lebozec, donc ce coup d'œil régulier sur l'univers des biotech et des medtech. Le CAC 40 toujours en baisse. Dans la prochaine demi-heure, c'est la famille qui va se réunir. Et puis, vous pouvez nous suivre, vous le savez aussi, en replay et podcast sur notre application BFM Business. À l'instant, vous pouvez retrouver en ligne, en replay et en podcast notre portefeuille trading BFM Bourse pour mesurer le potentiel technique qui attend les marchés, les valeurs aussi qui techniquement offrent pour la suite le plus de potentiel sous l'analyse de notre spécialiste Alexandre Tixier. Donc le replay désormais en ligne, vous pouvez bien sûr le consulter. Nous, on se retrouve dans 1 minute 30 avec la famille. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est la famille qui se réunit chaque jour jusqu'à 17h, les équipes radio, télé et les équipes web de BFM Bourse, incarnées aujourd'hui par Jean-Louis Delloro. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver Jean-Louis. On vous espère en meilleure forme que le CAC 40. Non, mais le mois d'avril était pourri, quoi. Enfin, pourri, pluvieux, quoi. Sur le CAC 40, on a perdu 2,7% au mois d'avril. On s'est dit, ah, on va arriver au mois de mai. Mai, fais ce qu'il te plaît, ça ira mieux. Bah, pas du tout. On démarre cette séance à nouveau sous la pluie à la Bourse de Paris.
Oui. Petite regain de morosité, là, sur le CAC 40 ces derniers jours. C'est difficile de, quand même, de pas faire le lien avec ce qui se passe au niveau de la réserve fédérale et de ce qu'a annoncé.
J'ai cru que vous allez dire Jérôme Powell. Le lien avec la météo. Non, pas du tout. Difficile de pas faire le lien avec la météo.
La météo monétaire, si on
veut.
Oui,
c'est ça.
Voilà. Non, mais c'est vrai que l'inflation aux États-Unis, bah, elle a bien du mal à baisser. On a même plutôt, la dernière tendance en mars, c'était même une hausse selon l'indice PCE. Donc, pour l'instant, la baisse ne baisse pas ses taux. Ça s'éloigne de plus en plus, la première baisse de taux. On visait juin, ce sera sans doute après. En revanche, c'est là où le message est un petit peu brouillé, hein, c'est que la Fed va un tout petit peu assouplir sa politique monétaire, elle va réduire moins rapidement que prévu son bilan. Mmh. Autrement dit, elle va diminuer un peu moins rapidement ce qu'on appelle la masse monétaire en circulation. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose d'accommodant. Mais voilà. Mais pour l'instant, le marché regarde plutôt sur les taux et un peu négatif.
Comment interpréter entre les lignes le message de Jérôme Powell hier soir? Il se trouve qu'on était avec l'un des meilleurs spécialistes de l'analyse monétaire. C'était il y a quelques minutes dans l'Écho du Monde. Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA. C'était en direct, si vous avez raté le direct, replay et podcast à retrouver sur notre application BFM Business. Oh, les médicaments anti-obésité, il faut qu'on en parle aussi un petit mot quand même. Novo Nordisk recule, alors que Novo Nordisk relève ses prévisions pour la suite. Pourquoi recule-t-il? Parce que le titre avait déjà énormément progressé. Aujourd'hui, donc, malgré un nouveau, énième relèvement de ses prévisions, le titre Novo Nordisk perd 2,3%. Et c'est dans cette idée que les méga-trends du début d'année sont peut-être un peu en train de s'essouffler. L'anti-obésité, l'IA aussi, il y a un peu moins de magie dans le marché autour de l'intelligence artificielle. On verra autour de l'IA ce que nous dira ce soir Apple. Apple annoncera ses résultats après la clôture des marchés. Jean-Louis Cussac nous appelle depuis Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
On met quand même légèrement de loin, mais enfin on voit cette... On met en danger la barre des 7000 points. On n'en est plus très très loin sur le CAC. 7933 points. La barre des 7900 points qu'on met en danger. 7933, moins 0,6%. Est-ce que techniquement, vous sentez, Jean-Louis, le marché un peu plus fragile désormais?
Non, pas du tout. Justement, c'est la conséquence de ce que j'ai répété depuis très longtemps. C'est-à-dire que la construction de la hausse s'est faite vraiment avec beaucoup de méfiance, sans complaisance, avec une volatilité implicite toujours relativement élevée, et surtout elle se tendait immédiatement dès qu'il y avait du stress. Et donc on a des marchés qui sont toujours solidement construits. Donc si vous voulez, quand je dis ça, ça veut dire que l'effet domino n'est pas possible. Alors évidemment, s'il y avait une grosse catastrophe, ça baisserait, mais on voit que le marché baisse, par exemple à l'ouverture. Prenez le cas aujourd'hui, on est déçu de ce que Powell a dit, hein, on va dire quand même que il a dit qu'il n'y aura pas de hausse des taux. Enfin, quand même, on attendait 4 au début de l'année. Maintenant, s'il y en a une, on sera content. Alors, le marché a baissé entre 9h et 9h30. Et depuis 9h30, il fait plus 0,2, moins 0,2, plus 0,2, moins 0,2 par rapport à sa moyenne. Il fait presque rien. Dans le calme absolu, avec des fortes variations quand même sur certaines valeurs. Il y a toujours des gros mouvements, des réactions violentes à des bonnes nouvelles, à des moins bonnes. Mais enfin, en règle générale, c'était plutôt assez positif. Hein. C'est vrai que c'était un tisse continu là, de baisser, mais elle avait tellement monté, on peut relativiser sa baisse. Et puis c'est tout le secteur automobile qui a été impacté, même si aujourd'hui c'est surtout Stellantis. Bon, tant qu'on tient 7815 futurs mai, moi, je continue d'acheter les replis. Alors, pas tout le temps les yeux fermés, etc. On est dans un biais qui tend vers la neutralité, mais si vous voulez, on reste avec des probabilités de rebondir qui sont non négligeables. On voit que les investisseurs sont prêts à voir les choses encore d'une manière favorable. Vous voyez, on ne montera pas les taux. Ça pourrait faire fortement baisser. Ben non, ça fait plutôt monter. Donc on reste avec le moral positif.
Effectivement. Alors Jean-Louis, vous restez avec nous. Justement, on va parler des valeurs qui se distinguent. Encore une baisse pour Stellantis, moins 3,5% après celle de mardi. Vous y consacrez d'ailleurs un article, hein, Jean-Louis, très détaillé sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Et puis dans un instant, Jean-Louis, vous restez avec nous. On parlera aussi de cette hausse de téléperformance quand même. Plus de 8% de hausse en ce moment-là aussi. Worldline qui a publié ses résultats et qui gagne 9%. Mais avant d'en parler et de retrouver Jean-Louis en ligne dans un instant, notre question du jour. Vous pouvez nous suivre, hein, vous le savez, sur notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. aussi, il suffit de vous y abonner. L'autre question, elle concerne à nouveau Total Energy. Bruno Le Maire s'est exprimé ce matin, le ministre de l'économie. Il a dit, c'était sur BFM TV, Jean-Louis, il a dit « je vais me battre ». Je vais me battre pour que la cotation principale de Total Energy reste en France et ne parte pas à Wall Street. Et vous, c'est la question qu'on vous pose, et vous en tant qu'actionnaire, est-ce que vous préféreriez finalement peut-être voir une cotation principale à Wall Street ou est-ce que vous préférez que cette cotation principale reste à Paris? C'est la question qu'on vous pose sur notre fil X, BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Vous êtes d'ailleurs nombreux à participer et à répondre. Vous, Jean-Louis, à titre personnel, vous pensez que pour les actionnaires de Total, il vaut mieux une cotation à Wall Street ou à Paris? On est bien à Paris.
Alors, si je me mets vraiment dans la peau d'un actionnaire, hein, qui oui. ne réfléchit qu'à son propre bien en tant qu'actionnaire, c'est évident qu'il vaut mieux aller coter à Wall Street pour une raison assez simple. Hein, c'est un peu ce que dit Patrick Pouyanné en filigrane. Les groupes pétroliers sont beaucoup plus achetés aux États-Unis, sont beaucoup plus recherchés. D'ailleurs, ça se voit dans les valorisations. Donc moi, j'ai regardé ce qu'on appelle le PER, hein, le cours ratio sur bénéfice, avec deux comparables, deux entreprises qui sont assez comparables par rapport à Total. Il y a ExxonMobil, on est à 14. Chevron, on est à un peu moins de 15, mais voilà, on est dans les mêmes eaux. Total, on est à 8. Ouh. Donc, grosso modo, les deux grands groupes américains pétroliers sont à peu près deux fois mieux valorisés en bourse que Total. Donc, si Total se cote principalement à Wall Street, ce gap-là, il va sans doute être un petit peu comblé, peut-être pas entièrement, mais il sera certainement un peu comblé. Donc, si je suis actionnaire, j'aurais plutôt intérêt à ce que Total aille se cote principalement.
Mais par exemple, j'ai des actions Total Energy aujourd'hui qui sont cotées à Paris. Si la cotation principale passe à Wall Street, est-ce que mes actions, du coup, vont moins progresser que si l'essentiel restait à Paris? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que l'argent ira nourrir le titre à Wall Street et donc délaisser le titre que je détiens ici à Paris? Enfin, voilà, c'est la question que peut se poser l'actionnaire actuel déjà investi dans Total Energy.
Oui, non, mais si, à partir du moment où il y a une double cotation, de toute façon, il peut y avoir des petites différences de temps en temps, mais après, ça se lisse. Et après, les deux cours, normalement, doivent être à peu près égaux. Il peut y avoir des petits décalages temporaires, comme il y a pas les heures d'ouverture sont pas exactement les mêmes. Mais bon, non, normalement, la tendance, c'est que tous les deux s'alignent.
Bon, on le disait, nombreux à avoir répondu et à avoir participé aujourd'hui, et vous votez quand même Paris. À 68%, vous préféreriez que Total Energy garde sa cotation principale ici à Paris plutôt qu'à Wall Street. Vous votez Wall Street pour à hauteur de seulement 32%, avec beaucoup d'arguments d'ailleurs en commentaire. N'hésitez pas, continuez, on va continuer d'aborder cette thématique bien sûr tout au long de l'émission. Alors aujourd'hui, il se trouve que ce sont les cours du pétrole qui entraînent à la baisse Total Energy. Ouais, Total Energy perd plus d'1,5% avec des cours du pétrole qui peut-être le signe de tensions géopolitiques qui se calme un peu. Cours du pétrole qui continue de se détendre. Jean-Louis, la valeur star aujourd'hui, et pour une fois, elle progresse cette valeur. On n'en parle pas en mal, mais en bien aujourd'hui. Ça change. Téléperformance a publié ses résultats. Téléperformance gagne 10% à l'instant.
Ça faisait longtemps que Téléperformance n'avait pas surpris de façon positive les marchés et les analystes. Alors, pourquoi? Parce qu'en données comparables, les revenus ont progressé de 0,9% au premier trimestre, alors que le consensus, il visait une baisse à 0,8%. Donc, il y a un delta, en gros, de 2 points. Et donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, pourquoi on dit données comparables? Parce que c'est vrai que c'est un peu le grand chambardement chez Téléperformance, puisqu'ils ont finalisé une énorme acquisition en fin d'année dernière avec le rachat du groupe Majorel. Et donc, si on regarde juste l'évolution des revenus, ce qu'on appelle données publiées, sèchement, on va dire, on serait à pratiquement plus 27% sur un an. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder à données comparables. Mais après, si on regarde activité par activité, c'est plutôt certaines activités qui progressent que d'autres. Et c'est plutôt celles à forte valeur ajoutée, comme le recouvrement de créances, l'aide dans les processus de recrutement, ou ce qu'on appelle aussi la traduction en simultané, en direct, par vidéo, par téléphone qui progresse. Oui. Et par contre, c'est plus compliqué pour ce qui est des activités des centres d'appel plus classiques qui sont plutôt en repli. Et derrière, y a bien sûr, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a la question de l'IA, l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Est-ce que Téléperformance va se faire remplacer au moins en partie par des solutions IA?
On a la réponse ou pas encore?
On n'a pas encore la réponse, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas massif. Alors, le patron de Téléperformance, ils répondent un peu toujours la même chose. Ils ont deux arguments. Ils disent: pour eux, l'IA va pas remplacer l'humain, ça va plutôt être une aide à l'humain. Par ailleurs, l'IA va aussi créer de nouvelles opportunités, par exemple dans la modération de contenu. Après, on est en phase de transition sur l'IA. C'est vrai qu'il y a, je vous renvoie une étude de McKinsey là-dessus qui dit que voilà, sur les cas d'études, en fait, il n'y a pas de temps de cas d'études où c'est vraiment rentable pour l'instant. C'est un plus, très certainement. Mais à part le cloud, par exemple, où là, ça cartonne, oui. L'IA vraiment booste les revenus et la rentabilité. Sur d'autres sujets, c'est un peu plus complexe, c'est moins évident. Donc voilà, téléperformance à voir.
Effectivement, plus 9,5, Jean-Louis Cussac est toujours avec nous depuis Perceval Finance. Est-ce que techniquement, là, la hausse du jour débloque du potentiel, va peut-être aider ce titre à enfin se décoincer plus durablement, Jean-Louis?
Non. Non, malheureusement non. D'ailleurs, je douche un peu votre optimisme, mais c'est vrai que elle a gagné, vous rendez compte, jusqu'à combien, 19% sur le plus bas d'hier, c'est énorme. À l'ouverture, elle était déjà en forte hausse, elle a bien progressé, et derrière, elle a reperdu énormément, hein. Ça, c'est 9,80, vous voyez, 9,80 de baisse. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. Une valeur, si vous voulez, sur laquelle on a une évolution d'un consensus qui passerait positif, elle perd pas 9,80. Donc, pour l'instant, d'ailleurs, vous l'avez dit, pas encore de réponse sur l'IA, etc. Pas encore de réponse à beaucoup de choses. Les pessimistes, si vous voulez, ils ont peut-être tort au point où ils en sont, au niveau de leur pessimisme. Et puis les optimistes, ils n'ont pas encore trouvé des raisons de l'être vraiment aujourd'hui et de renforcer leur position et de se dire bon voilà, c'est fini, il faut y aller, etc. Donc la question se pose. Et sur le plan technique, moi je prends de la marge. C'est typiquement une situation où il faut se dire. Voilà, tant qu'on n'avale pas le gap du 7 mars, là, il faut vraiment franchir les 110 il est trop tôt pour approcher. Donc, il faut franchir les 110 pour dire, OK, ça y est, on part pour peut-être retrouver les derniers plus hauts récents, là. Mais vous vous rendez compte, elle a perdu tellement, elle a divisé par 4, hein, 5. Donc, il y a de la marge, il faut du temps, la digestion n'est pas terminée, et on manque encore certainement de réponses, parce qu'on n'aurait pas cette configuration graphique aujourd'hui si les choses allaient vraiment mieux pour la suite.
Au moins, c'est dit et c'est clair. Et donc, compliqué, hein, téléperformance, même si aujourd'hui, oui. C'est une belle hausse, effectivement, plus 9,5%. Il y a un autre mal-aimé qui aujourd'hui progresse bien, plus 9%. Worldline, belle publication, avec notamment les services aux commerçants qui semblent repartir pour Worldline. Et ça, c'est apprécié par le marché. Dans l'univers des mines, vous savez que les mines, ça redevient vraiment porteur en bourse. Ben, Imerys a publié. Belle perspective aussi. Imerys gagne 11% aujourd'hui. On en parlera aussi tout à l'heure avec nos spécialistes. Et si vous aimez le foot, je sais que vous êtes supporter du PSG, Jean-Louis, je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Eh bien, vous avez perdu hier soir, vous le savez, en demi-finale aller de Ligue des Champions, c'est foutu.
Il reste encore un match.
C'est foutu, Jean-Louis. En tout cas, du point de vue des investisseurs, puisque figurez-vous que le Borussia Dortmund, l'équipe qui a battu hier soir le PSG, l'équipe allemande, le Borussia Dortmund, est coté en bourse. Et le titre Borussia Dortmund gagne aujourd'hui, au lendemain de sa victoire contre le PSG, 4,5%. Plus 4,5%, oui. Non, ça vous fait, vous fait mal, hein. Ouais, ça vous
non,
fait
il
mal.
Va falloir le shorter. Voilà, c'est une bonne occasion de shorter le titre avant le.
C'est quand le match retour?
C'est la semaine prochaine, d'accord.
Ah oui, attention, retour de flamme. Alors, sur ce titre, en tout cas, Borussia Dortmund en bourse progresse bien aujourd'hui, plus 4,5%. 16h46, chaque jour. Le bullshitomètre, un expert de marché, vient déconstruire une idée reçue aujourd'hui. Gilles Petit nous rejoint et nous accompagne, journaliste, expert des questions patrimoniales, des questions environnementales aussi. Bonjour Gilles.
Bonjour à vous.
Ravi de vous retrouver, Gilles. Oui, Total Energy réfléchit à une cotation à Wall Street, faire de Wall Street sa place principale de cotation, et c'est une des conséquences de l'ESG, très strict, l'ESG en Europe, en tout cas plus qu'aux États-Unis. Mais l'ESG européen est un modèle du genre. Et mieux encore, grâce au pacte vert, l'Europe est en train de devenir une véritable puissance écologique, et ça, on peut s'en réjouir. Enfin, c'est ce que pensent certains. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous dites bullshit. Vous foudroyez. L'idée selon laquelle l'Europe, c'est en train de devenir une véritable puissance écologique malgré le pacte vert.
Absolument, et les certains en question sont des hommes politiques qui sont en responsabilité, comme on dit aujourd'hui, et à des très hautes responsabilités, figurez-vous. Et à l'approche des élections européennes, donc du 9 juin, j'avoue que cette vérité, ou en tout cas cette fable qu'on nous raconte, c'est une histoire, une fable après tout, perd de sa substance au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections, tout simplement.
Le 9 juin prochain, ce sont les intentions de vote qui vous inquiètent, en l'occurrence ?
Alors, on va pas se mentir, la transition énergétique ou écologique, telle qu'on l'entend, elle a quand même un petit peu de plomb dans l'aile, et effectivement, les intentions de vote, mais quand je parle des intentions de vote, on parle souvent, parce qu'on est franco-français, des intentions de vote en France, l'extrême droite serait en tête, mais en fait, jusqu'à présent, et jusqu'il y a encore quelques mois, jusqu'à encore 6 mois, pour être tout à fait juste, on avait à composer en Europe avec ce qu'on appelle aussi le bloc conservateur, pour pas dire extrême droite.
Le PPE.
Voilà. On avait à faire affaire avec juste avec les Hongrois. Et puis depuis 6 mois, on a quand même vu des intentions de vote et puis aussi des partis qui ont émergé dans d'autres pays en Europe. On parle pas que de la Hongrie, on parle pas que de la France, on parle de l'Italie évidemment, qu'on voit souvent sur le devant de la scène. On parle de la Finlande aussi. Ça, on en parle très peu chez nous. On parle des Pays-Bas, évidemment, de la Slovaquie et de la Croatie. Donc autant de pays qui peuvent donner des voix à l'extrême droite et qui peuvent effectivement... si vous voulez, on n'arrête pas de parler de millefeuille réglementaire en Europe qui assommerait tous les citoyens européens. Les agriculteurs sont aussi en première ligne sur cette question-là. Si jamais ces partis-là avaient un poids important en Europe, ils pourraient effectivement remettre en cause cette transition énergétique, en tout cas toutes les initiatives qui ont été prises.
Oui. C'est pour ça que vous dites c'est pas gagné.
C'est loin d'être gagné.
N'êtes-vous pas néanmoins un brin défaitiste, un brin de muguet, bref. Après tout, le pacte vert, c'est en particulier le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce mécanisme, il est entré en vigueur. Ça y est, il est entré en application en 2023. Oui. C'est vertueux et ça y est, le train est lancé.
C'est merveilleux, merveilleux. On est dans cette fable, vous savez, ces histoires qu'on rencontre.
Il est entré en application.
Non, alors le pacte vert, qu'est-ce qui est intéressant dans le pacte vert? C'est ce mécanisme d'ajustement aux frontières. C'est une taxe carbone, tout simplement. Alors, là où je vous suis et là où je suis d'accord avec vous, c'est effectivement, pour les gens qui nous écoutent, c'est de mettre aux frontières de l'Union européenne une taxe qui s'imposera sur certains types de production et qui permettra effectivement de prendre en compte le fait qu'on est plus vertueux sur la production neutre en carbone, en tout cas légèrement moins importante en carbone qu'à l'extérieur. Donc, sont visés les Chinois. Mais le problème de ce mécanisme d'ajustement, de taxe carbone aux frontières, c'est qu'il n'en est que à son stade d'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, il est rentré en application en 2023, aujourd'hui, on ne fait que simplement déclarer. La taxe n'est pas prélevée. Donc, en fait, c'est juste une expérimentation. Donc, cette taxe carbone sera mise en place en 2026. Rendez-vous compte, 2026, mais c'est dans 2 ans. Je vous rappelle que les objectifs, les premiers objectifs européens, c'est 2030.
Nous comprenons votre point de vue. Mais reconnaissez quand même qu'au-delà des seuls résultats des élections européennes, force est de constater que les entreprises ont déjà pris le virage de la transition énergétique dans un horizon de temps pas si lointain. Gilles, on ne devrait voir rouler dans les métropoles que des véhicules électriques ou hybrides. C'est une vraie avancée.
Alors, je ne vais pas vous parler de la fable, mais je vais vous parler de l'image d'Épinal pour ces choses-là. On pourrait en faire une émission entière. Je le dis à chaque fois, mais faisons une émission entière sur le véhicule électrique. Le véhicule électrique... C'est impossible de dire aujourd'hui que c'est un véhicule qui est neutre en carbone. Premièrement, on peut le dire, les études les plus récentes montrent que la consommation en carbone d'un véhicule électrique en cycle d'utilisation, je parle juste quand on utilise une voiture électrique, c'est 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Donc c'est quelque chose qui n'est pas neutre en carbone et c'est quelque chose qu'on nous vend comme étant neutre en carbone. En plus, le véhicule électrique, si on regarde un petit peu les chiffres, on voit bien qu'il a du plomb dans l'aile, puisque en France, au début de l'année, les ventes de véhicules diesel étaient supérieures aux ventes de véhicules électriques, ce qui est normal, puisqu'en France, non seulement les véhicules électriques sont chers, mais en plus, on fonctionne beaucoup à la subvention. Donc le véhicule électrique, c'est pas du tout une bonne idée, et on est d'accord, vous et moi, que le véhicule électrique, c'est pas quelque chose de très écologique. Donc, avancer le véhicule électrique pour dire qu'on est en train d'avancer sur la transition écologique, c'est quand même un petit peu léger.
C'est la famille qui est réunie, Gilles Petit, vous n'allez pas vous en sortir si facilement. Jean-Louis J'espère. Vous interroge.
Oui, si vous n'êtes pas convaincu par les véhicules électriques, qu'est-ce qu'on peut dire des véhicules hybrides? Parce que c'est un moteur thermique avec une batterie, un moteur électrique. Ça permet quand même d'envisager une transition un petit peu plus sereine, non?
Voilà, alors deuxième image d'Épinal qui a été démontée très récemment par la très sérieuse Commission européenne. Attention, la Commission européenne, c'est pas des rigolos, ils sont pas là pour rigoler. Ils ont fait une étude là-dessus parce que ce qui se passe passe avec le véhicule hybride quand même, c'est que les constructeurs automobiles vous affichent des chiffres de consommation qui sont incroyables, quoi. On a envie d'y croire. Mais comment des véhicules qui sont construits, qui sont aussi imposants en aérodynamique qu'une pelleteuse et qui pèsent au minimum 1,6 tonnes, peuvent aussi peu consommer? Bah, la Commission européenne a apporté une réponse. Bah, en fait, non. Les chiffres des constructeurs sont faux. Et la Commission européenne, ce qu'elle a dit, c'est quoi sur les véhicules hybrides? Elle a dit, quand ce sont des particuliers qui utilisent un véhicule hybride, les chiffres de consommation des constructeurs sont inférieurs de x5. Ils sont divisés par 5, alors que la consommation réelle est multipliée par 5. Quand ce sont des entreprises qui utilisent les véhicules hybrides, la consommation est multipliée par 6 par rapport aux chiffres fournis par les constructeurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on a parlé du Dieselgate, bah moi, je vous mise une pièce là-dessus, oui. Un bitcoin, oui. Allez, soyons fous. Combien, on parlera bientôt de l'hybrid gate. Ah parce bon que, effectivement, les constructeurs sont en train de mentir sur ces chiffres-là. Et ce qui est terrible pour eux, c'est que, un jour ou l'autre, ça va se retrouver en bourse. Parce que ça pèsera, forcément.
Ah, et que si jamais,
il y aura des controverses qui vont être soulevées, ESG, évidemment. Ouais. Et s'il y a des actions en justice qui sont intentées, en plus, les constructeurs automobiles vont s'en prendre plein la figure. Alors, la transition écologique Europe et l'Europe qui serait un chantre de la transition écologique.
Non, on peut pas vous laisser.
On est mal parti.
On peut pas vous laisser comme ça, Gilles, c'est pas possible.
Après, il y a toujours eu un différentiel entre consommation théorique et consommation pratique. Mais il me semble que les hybrides consomment quand même moins que les pures essences ou pures moteurs techniques.
Non, mais Jean-Louis, il a décidé de tout voir en noir. Par l'économie verte, il voit les choses en noir. Gilles.
Oui.
Quand même, les accords de Paris, on est en train de s'aligner.
Bien sûr, oui.
Le Green Deal européen, 407 milliards d'euros investis pour justement respecter l'engagement des accords de Paris. Vous n'allez pas balayer ça comme ça d'un coup.
Ah, mais je ne le balaye pas d'un revers de main. Non, je ne balaye pas d'un revers de main, mais je tiens, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est quand même, je tiens à vous dire que c'est beaucoup. Mais comme le dit la chanson, la vieille chanson des années 80, c'est beaucoup, mais c'est bien peu parce que 407 milliards d'euros, ben, il manque un peu plus de 400 milliards. Parce que les chiffres estimés pour pouvoir justement financer cette transition énergétique en Europe, c'est environ 813 milliards en moyenne chaque année. Donc chaque année, jusqu'en 2030, 2030, même pas 2050, il nous manque chaque année 400 milliards pour financer cette transition énergétique. Ce qui veut dire quoi? Et c'est pour ça, j'en reviens à mon point de départ sur les élections européennes, c'est que les gens qui vont aller voter en se disant « Mince, l'Europe nous embête, on en a marre de cette surréglementation qui nous pourrit la vie. Oui. » À côté de ça, vous avez des États qui sont surendettés. La note de la France a été maintenue, mais c'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Et à côté de ça, il y a un besoin d'investissement qui est énorme et considérable et qu'on parviendra certainement pas à combler dans les 6 prochaines années.
En tout cas, on pourra l'assumer qu'à l'échelle européenne, ce besoin de financement.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la France va mal, l'Allemagne va pas super bien non plus. Oui. Je doute que ça soit la Grèce qui puisse financer autant la transition énergétique, sans être méchant avec nos amis grecs.
L'empreinte sur le marché, sans aucun souci.
Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec vous, les chiffres sont fantastiques, mais enfin, elle emprunte, mais c'est de l'argent qu'il faut rembourser derrière. C'est pour ça que je vous parle d'un mur de la dette. Il y a un mur de la dette en France. On a des besoins de financement au niveau européen et à côté de ça, on a des élections européennes qui arrivent qui, si jamais les gens décident de stopper l'élan actuel, fera que la transition énergétique, on sera en dehors des rails et de la trajectoire.
Si on revient sur le côté boursier de cette affaire aussi, ça veut dire quoi pour les constructeurs auto? C'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que en fonction des élections, il y aura peut-être moins de réglementations à l'avenir ou des assouplissements. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle?
Les constructeurs pourraient en profiter.
Le problème, c'est que les deux forces, on va dire, sont à peu près de même taille. Donc tout va dépendre parce que la réglementation peut effectivement être allégée. Mais il peut y avoir des controverses. Et je vous rappelle qu'on est au niveau de l'Europe, c'est-à-dire des actions en justice intentées, par exemple, au niveau européen, seront valables en France. Et donc, si les constructeurs sont attaqués sur des controverses ESG, là, ça peut taper très très fort. Et je vous rappelle que nos constructeurs, bon, ils sont quand même pas en position de force.
Gilles,
en ce moment.
Vous estimez que l'Europe ne va pas assez vite, qu'on n'est pas assez ferme sur les questions ESG ici en Europe. Enfin, quand même, on est tellement ferme qu'un groupe comme Total Energy envisage éventuellement de faire de Wall Street sa place de cotation principale, parce que les institutionnels européens, les banques, les assureurs n'achètent plus le titre Total Energy pour respecter justement les règles européennes. Bien alors sûr. Qu'aux États-Unis, tout le monde continue d'acheter les pétrolières. Vous êtes content? Vous voyez le résultat?
Mais moi, j'ai jamais voulu que Total déménage, mais quand même, si vous avez écouté la commission d'enquête sénatoriale à laquelle Total a témoigné, Total a quand même dit tout simplement, et ça, l'Europe et l'État français peuvent s'en inspirer, parce que c'est l'État français en l'occurrence hein, qui est en cause là. Total a dit, nous, on finance la production de panneaux solaires aux États-Unis parce que on a un avantage fiscal. Donc, dont acte à l'État français. Ou à l'Europe de dire bah ok, on prévoit un avantage fiscal et on permet à des entreprises comme Total de rester cotées en France et donc en Europe parce que on a envie de favoriser une transition énergétique pour des acteurs comme ça. Si Total s'en va, c'est pas simplement parce que personne n'achète des titres pétroliers. Vous le dites vous-même.
Les Américains en achètent.
Les mines marchent très fort. Donc si les mines marchent très fort, il n'y a pas de raison que le pétrole ne marche pas. Il faut pas se voiler la face. Je veux dire, c'est pas la production aujourd'hui en électricité et en éolien qui va permettre d'assurer cette transition énergétique. Donc mon message c'est réfléchissez et faites le bon choix au moment de voter à ces élections européennes parce que c'est super important pour cette transition énergétique.
Il est venu partager sa mauvaise humeur, Gilles Petit, régulièrement à nos côtés. Merci Gilles.
Avec plaisir.
Spécialiste, expert de ces questions patrimoniales, toujours un plaisir partagé. Jean-Louis Dallaureau et la famille qui se réunit, on vous retrouve pour de nouvelles aventures, peut-être demain Jean-Louis, pourquoi pas. Ben oui, les équipes web qui nous accompagnent effectivement. Et cet article sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com, consacré à Stellantis, encore en baisse, -3,5%, compliqué Stellantis, mais c'est vrai que le titre avait tellement progressé depuis le début de l'année. Dans un instant, la suite de BFM Bourse, on va mesurer le potentiel des marchés pour la suite avec nos experts du club. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.